Il est 21h à Ouagadougou et à Bamako. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, Burkina Faso, les partis politiques, la société civile et les dirigeants religieux et traditionnels ont convenu d'une transition d'un an.
Les mêmes là qui ont brûlé le pays, ils sont venus s'asseoir sur la même table que nous pour discuter de quoi. On ne s'assoit pas avec eux. Nous, on se retire, on les laisse. Parce que nous, on n'a pas encore enterré nos martyrs qui sont à la mort.
Reportage de notre correspondant Zoumana Wonogo à suivre. Création d'une entité chargée de lutter spécifiquement contre le blanchiment d'argent au Mali. Rubrique santé, l'OMS a une nouvelle directrice Afrique. Enfin, le Haut Commissariat pour les réfugiés lance une campagne pour dénoncer l'apatridie. 10 millions de personnes dans le monde n'ont aucune nationalité. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est ouvert ce matin à Accra, c'est au Ghana, pour plancher sur l'épidémie d'Ebola, mais aussi et surtout l'après Blaise Compaoré au Burkina Faso, Bagassi-Coura.
Oui, 9 chefs d'État ont répondu présents à ce sommet, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, qui a accueilli Blaise Compaoré chez lui à Yamoussoukro. Les émissaires de la CEDEAO et des Nations Unies, qui étaient jusqu'hier en visite à Ouagadougou, sont également venus à ce sommet d'Accra. Les chefs d'État devraient publier un communiqué à l'issue de leur rencontre. Au Burkina Faso même, le lieutenant-colonel Isaac Zida a rencontré l'ensemble des organisations de la société civile, les partis politiques de l'opposition et les autorités coutumières et religieuses. Et selon les médias locaux, il leur a remis le document présentant le schéma de la transition. Par ailleurs, le chef de file de l'opposition, à la tête d'une délégation composée de chefs de partis politiques de l'opposition, a entamé des visites aux familles des victimes du soulèvement populaire du 30 octobre 2014. Ce soulèvement, on se rappelle, avait abouti à la démission de l'ancien président Blaise Compaoré et a occasionné plusieurs morts. Le lieutenant-colonel Isaac Zida a assuré que des enquêtes sont en cours pour dresser un bilan afin qu'un hommage puisse être rendu aux victimes. Et selon une organisation locale, l'Institut Free Afrique, les pertes économiques se chiffreraient à environ 200 milliards de francs CFA.
Dans le nord du Mali, un camion appartenant à un fournisseur de la MINUSMA a heurté une mine à Olmoustrat ce matin. L'explosion a fait 3 blessés, tous des civils qui ont été évacués par la force onusienne pour recevoir des soins. Dans le nord-est du Nigeria, des dizaines d'islamistes présumés ont été décapités dans l'état de Borno, fief historique de Boko Haram. Des exactions qui se seraient produites récemment près de la ville de Biou. D'après des témoins cités par l'AFP, une milice locale aurait revendiqué ces actes.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Politique américaine, le président Barack Obama a invité les dirigeants du Congrès à le rencontrer demain à la Maison-Blanche pour discuter des priorités législatives. Son parti vient de subir une cuisante défaite mardi aux élections de mi-mandat qui ont vu les républicains prendre le contrôle du Sénat et renforcer leur majorité à la Chambre basse. Obama a promis une coopération raisonnable avec ses adversaires au Congrès. Israël ne compte pas modifier les règles d'accès à l'esplanade des mosquées ou Mont du Temple. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en a donné l'assurance jeudi au roi Abdallah II de Jordanie. La Jordanie, un des deux seuls pays arabes à avoir signé un accord de paix avec Israël, est la gardienne de l'esplanade des mosquées. De violents heurts ont éclaté hier avec la venue de dizaines de juifs ultra-religieux réclamant le droit de prier sur ce lieu saint musulman, également vénéré par les juifs. Israël ne sera pas poursuivi à la Cour pénale internationale pour son raid en 2010 contre une flottille humanitaire à destination de Gaza. C'est ce qu'indique un communiqué du procureur Fatou Ben Souda publié aujourd'hui. 9 citoyens turcs avaient été tués durant cette intervention, jugée excessive et déraisonnable par l'ONU en 2011. La flottille était composée de 8 navires avec à leur bord 70 passagers d'une quarantaine de pays. Et puis, 3 Français arrêtés en 2012 au Pakistan en compagnie d'un de leurs compatriotes considéré comme un cadre historique d'Al-Qaïda ont été condamnés aujourd'hui par un tribunal de Paris à 5 ans de prison. Ils sont accusés d'avoir voulu rejoindre le djihad. Les 3 étaient en détention provisoire en France où ils sont arrivés l'année dernière après leur emprisonnement au Pakistan. Vous suivez la Voix de l'Amérique, la suite de Sahel Plus maintenant, c'est avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à l'émission Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par le Burkina Faso où les tractations continuent autour de la transition qui devrait durer une année. Qui pourrait être le meilleur président de cette transition ? Le mouvement de protestation, le Ballet Citoyen, reste vigilant. Ce nouveau président se doit d'être exemplaire, comme le précise Smoky, l'un des leaders du mouvement populaire.
Alors nous n'avons pas aussi de provocation de nous impliquer dans les actes politiques, puisque nous faisons aussi du social. Nous appelons les citoyens burkinabés à faire ce que nous appelons les opérations Manamana en hommage aux quatre années de révolution avec Thomas Sankara. Nous appelons les populations à avoir le sens du civisme et puis à éviter de faire du vandalisme, etc. Je pense que c'est un nouveau type, effectivement, de citoyen que nous essayons de créer. Un citoyen burkinabé qui pourrait enfin avoir de la fierté en s'entendre appeler homme intègre. Puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Burkinabé, ça veut dire homme intègre, et Burkina Faso, terre des hommes intègres. Nous tendons à vouloir mériter cette appellation-là. Et pour les politiques, nous pensons qu'il y a des gens, des cadres qui ont été formés pour cela. Il y a suffisamment de cadres compétents au Burkina Faso. Nous sommes 17 millions de Burkinabés. Voilà, nous pensons qu'il y a suffisamment de gens compétents pour pouvoir faire appliquer les lois et nous amener vers un certain type de bonheur.
Qui aimeriez-vous voir en tant que président de la transition ?
Écoutez, le président de la transition que nous aimerions voir, c'est celui-là qui saura répondre aux aspirations des peuples, qui saura répondre aux aspirations des citoyens burkinabés. Et pour l'instant, nous attendons de voir quelles seront les propositions. Nous ne pouvons pas dire aux gens, nous ne pouvons pour l'instant proposer personne. Je crois qu'il y a un organe de transition qui va être mis en place. Bien avant une commission dont ce sera à la charge de proposer des noms et il faudrait que ce nom effectivement puisse nous amener à un consensus. Et nous suivrons les objectifs comme nous l'avons toujours fait, nous suivons les idéaux, les idées et les objectifs et non pas les hommes et non pas les individus. Et le président de la transition qui va être amené à gérer ce court passage là pour nous amener aux élections démocratiques devra être l'homme du consensus et qui saura rassurer les uns et les autres sur les objectifs que nous avons en commun.
Smoky, un des leaders du mouvement de contestation, le Ballet Citoyen. Suite à la visite hier à Ouagadougou d'une délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, les partis politiques, la société civile et les dirigeants religieux et traditionnels ont donc convenu d'une transition d'un an. Mais aucun accord n'est intervenu sur la personnalité appelée à diriger la transition. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wanogo.
Commencer sur des chapeaux de roue par les échanges tour à tour avec les leaders politiques, les chefs religieux et la société civile, la concertation menée par les trois présidents délégués par la CEDEAO à Ouagadougou a failli se terminer en queue de poisson au moment de la plénière. Les représentants de la société civile et de l'opposition ont quitté la table de négociation. Écoutons les explications de Boukari Konombo. Il est le président du mouvement Brassard Noir.
On n'a rien compris, en temps on voit les gens du CDP, l'ancien parti au pouvoir, les mêmes gens qui ont brûlé le pays, ils sont venus s'asseoir sur la même table que nous pour discuter de quoi. On ne s'assoit pas avec eux, nous on se retire, on les laisse, parce que nous on n'a pas encore enterré nos martyrs qui sont à la mort. Nous on n'est pas d'accord, donc on n'est pas d'accord pour s'asseoir sur la même table que ceux qui ont brûlé le pays. Donc nous, si la communauté internationale veut négocier, nous ne négocions pas avec eux.
Il a fallu alors tout l'entregent du président de la commission de la CEDEAO, cadré Désiré Ouédraogo, pour les ramener à la table de négociation conditionné par la sortie des partisans de Blaise Compaoré. C'est après cela que la rencontre avec la Troïka présidentielle a débouché sur un schéma de transition en six grands points. Écoutons les détails avec Kadré Désiré Ouédraogo.
Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note des opinions exprimées par toutes les parties prenantes qui ont marqué leur accord sur la nécessité 2. La levée immédiate de la suspension de la Constitution, la nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition, la formation d'un gouvernement de transition pour une période d'un an, l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2015,
Pour le nom du prochain président de la transition burkinabé, il faudra encore patienter, mais pas trop, assure Macky Sall, le président du Sénégal.
Nous avions voulu dans la journée, mais ce n'était pas évident, avoir ce nom. On se rend compte que ce n'était pas la peine aussi de se précipiter au point de compromettre ce que nous recherchons, raison pour laquelle nous laissons ici l'équipe de négociateurs poursuivre les discussions avec toutes les parties pour un dialogue inclusif, global, qui devra permettre dans quelques jours, vraiment 3 ou 4 jours peut-être, d'arriver à ce consensus pour trouver une personnalité indépendante, une personnalité en tout cas acceptée par tous, qui soit civile, qui pourrait diriger la transition.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Ouagadougou, où vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Nous partons maintenant pour le Mali. L'impact du blanchiment de capitaux sur l'économie d'un pays, la corruption et la concurrence déloyale sont quelques-uns des méfaits de cette pratique illicite. Au Mali, pour lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent, il vient d'être créé une structure dénommée Cellule nationale de traitement des informations financières. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Les secteurs de production sont les bases de l'économie d'un pays. Quand le blanchiment des capitaux atteint ces secteurs, l'économie ne peut pas bien marcher. Cela peut avoir comme conséquence la concurrence déloyale, la corruption, d'où l'insécurité du système financier. Modibo Sylla, président de la Cellule nationale de traitement des informations financières.
Le blanchiment impacte négativement sur l'économie d'un pays à plusieurs titres. Premièrement, ça a un effet négatif sur l'intégrité du système financier. C'est-à-dire l'argent blanchi qui est mis dans une banque. Et lorsque cette banque est convaincue que c'est de l'argent issu d'origine illicite qui est mis, ça met en cause l'intégrité de la banque. Donc ça force le système financier. Deuxièmement aussi, ça force la concurrence. Parce que le blanchisseur, son objectif n'est pas de faire une rentabilité. Hein. Son objectif, c'est de sécuriser son argent. Donc lui, il vient, les prix, il casse les prix. Par exemple, s'il a 200 millions, son objectif, c'est de gagner, de sécuriser 50 millions. Il sacrifie les autres 50 millions pour sauvegarder ces 50 millions. Donc il casse les prix, ne serait-ce que ces 50 millions soient sauvegardés.
En cassant ces prix, c'est une voie ouverte à la concurrence déloyale. Le blanchiment des capitaux stimule aussi la corruption.
Donc, il force la concurrence. Le troisième point, le blanchiment des capitaux est un facteur qui stimule la corruption. Et tout le monde sait l'effet de la corruption sur l'économie du pays. Et la narcotrafiquant, ça touche aussi même la sécurité du pays. Et quand ils arrivent avec leur argent facilement gagné, ils essaient de corrompre les décideurs et pour prendre des décisions qui sont en leur faveur.
Face à ces fléaux, le Mali s'est doté d'un arsenal conséquent avec comme point focal la cellule nationale de traitement des informations financières dont Modibo Sylla est le président.
En ce qui concerne le Mali, nous avons adopté une loi anti-blanchiment qui est la loi 066 qui définit les concepts et qui dit qu'il y a des services et des structures désignées qui doivent faire des déclarations de soupçons à la CNTIF, telles que le Trésor, les banques, les agents immobiliers, et les porteurs d'affaires, ainsi de suite. Donc, il y a la cellule nationale de traitement des informations financières qui a été créée et cette cellule qu'on appelle CENTIF.
C'est cette cellule de renseignement financier qui reçoit les déclarations de soupçons et fait des investigations avant les sanctions.
Et lorsqu'il y a des faits avérés, il saisit le pool économique par un rapport au procureur. Mais maintenant, quelqu'un qui est convaincu par la justice de blanchiment des capitaux court des peines de prison allant de 3 ans à 7 ans et sans compter aussi les pénalités financières et le blocage, la saisie de tout bien y est afférent.
Le blanchiment des capitaux peut nuire facilement à l'économie d'un pays. Il est perceptible dans plusieurs niveaux de l'économie. Et pour le combattre, il faut l'union de tous. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, très critiquée pour sa gestion de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, a élu hier sa nouvelle directrice pour l'Afrique, Félix Yepasis Zembrou.
Matidiso Rebecca Moïsi est médecin originaire du Botswana. Elle a été élue par les représentants des 46 pays africains membres de l'OMS, réunis hier à Cotonou, au Bénin. Elle devra remplacer l'Angolais Luis Gomes Sambo, en poste depuis 2005 et dont le mandat expire en début 2015. Elle a déclaré qu'elle va travailler avec les partenaires pour améliorer l'appui au système de santé des trois pays africains les plus touchés par l'Ebola. L'OMS a été très critiquée par sa réaction tardive face à l'épidémie qui s'est déclarée en début d'année en Guinée forestière. Malgré des alertes répétées de l'ONG Médecins sans frontières, ce ne sera que le 8 août, c'est-à-dire plus de 20 semaines après, que l'OMS va tirer la sonnette d'alarme et dire que l'épidémie est une urgence de santé mondiale. Aujourd'hui, près de 14 000 malades sont recensés et environ 5 000 personnes sont mortes dans 8 pays, dont la majorité au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a donné le coup d'envoi à une campagne planétaire appelée « J'appartiens » pour éradiquer d'ici à 10 ans l'apatridie, soit l'absence de nationalité. Selon le HCR, ce phénomène prive environ 10 millions de personnes dans le monde de toute existence légale, y compris en Afrique. Plus d'explications avec Jacques Aristide.
Toutes les 10 minutes, un enfant apatride est né quelque part dans le monde, d'après le Haut-Commissaire pour les réfugiés. Et Antonio Guterres de qualifier cette situation de grave anomalie inacceptable du 21e siècle. Les pays les plus touchés par le fléau sont la Birmanie, avec 1 million de personnes sans nationalité. La Côte d'Ivoire, où vivent 700 000 apatrides provenant notamment du Burkina Faso. La Thaïlande, 500 000. La Lituanie, 268 000. Et la République dominicaine, 200 000 apatrides d'origine haïtienne. Les guerres, les effondrements de pays, les lois empêchant qu'un enfant né de père inconnu prenne la nationalité de la mère sont parmi les facteurs avancés par le HCR pour expliquer le problème. Pour l'agence onusienne, les conditions sont réunies pour l'éliminer car d'après elle, il y a un changement d'attitude dans le monde concernant les apatrides. Dans son plan d'action à 10 points, le HCR propose de régler les situations existantes, de prévenir l'émergence de nouveaux cas et de mieux identifier et protéger les apatrides.
Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Joselle Morissin. À la console, Zahara Abouzaïd. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons avec Zé Louis qui interprète Amigo. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée